Putain, il fait sacrément beau aujourd'hui. Je parie que Taro est en train de griller comme un lézard sur le pont. Je vais en profiter pour confirmer le rendez-vous. Ouais, Illicus à l'appareil. Tu me reçois ? Oui. Tu te souviens du point de rendez-vous ? Parfait. Tu as les infos que je voulais sur le club des chatons ? Bien sûr que j'ai la marchandise. Ne sois pas en retard. Et pas un mot à Taro, ok ?
Bon. Je vais voir où en est la star de la bronzette. Ah ben t'es là. En train de cuire, comme je m'y attendais.
Bah évidemment. Tiens, t'en veux ?
D'où tu sors cette pizza ?
Ah, y en a plein le frigo ? Ah, j'en ai gagné tout un stock au poker hier soir, au Yellow Flag.
Contre qui t'as joué pour gagner des pizzas ?
Les petits bleus de la nouvelle mafia qui viennent de s'installer. Je leur ai enseigné la méthode Ruanapura. Ils verront plus jamais le poker de la même façon, si tu veux mon avis.
Attends, tu parles des gars de la gondola ? Et ça va pas nous poser des problèmes, ça ?
Mais non, t'inquiète, tout baigne.
Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel ? Passe-moi les jumelles.
Ok.
Voyons. Et merde, c'est bien la gondola. T'as bien foiré ton coup.
Quel mauvais perdant !
Tu nous as bien mis dans la merde. Maintenant, tu nous en sors. T'as tes cutlasses avec toi ?
Tu plaisantes ou quoi ? Jamais je ne bronze sans mes cutlasses.
Je descends en cabine, je prépare les torpilles. Je te laisse accueillir tes invités.
Ah, je te jure, me faire chier pendant mon bronzage. Mais à quelle heure ils mangent, ces Italiens ?
Hé, la gondola ! Vous tombez à pic. Je vous sers du plomb pour l'apéro.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 3. Black Lagoon.
Bienvenue dans le podcast Le samouraï et la soubrette. Et dans cet épisode, nous allons parler de...
Xavier, j'en ai une super bonne. Écoute ça. C'est un samouraï et une soubrette sur un bateau.
Oh non, putain.
Allez quoi ? Elle est bonne, non ? Elle est pas mal.
Alors je vais te faire une faveur. Je vais faire en sorte que nos auditeurs n'entendent pas ça.
Bon, bah, démarre l'épisode.
Bienvenue donc dans cet épisode qui sera consacré à la série Black Lagoon. Il s'agit d'un animé réalisé par le studio Madhouse, d'abord sur deux saisons en 2006, suivi d'une saison d'OAV en 2010. Avant de démarrer, petite précision, pour cet épisode, la majorité des points que nous allons aborder ne contiendra pas de spoilers. Cela étant, il peut y avoir quelques révélations mineures au sujet des personnages, auquel cas nous vous préviendrons en amont. Maintenant, Jean, est-ce que tu peux nous présenter rapidement de quoi ça parle ?
Volontiers, baby.
Alors, Black Lagoon nous montre un salaryman japonais qui part d'un Tokyo gris et morne pour rejoindre les mers ensoleillées de Chine dans le cadre d'une course pour son employeur, et qui, par la force des choses, se retrouvera enrôlé dans un équipage de mercenaires.
On va commencer par aborder l'ambiance de cette série, et Jean, tu me disais que c'était l'un de ses points forts.
Hi. Concernant l'ambiance dans Black Lagoon, l'univers est très réaliste, contemporain, probablement situé dans les années 90-2000, je dirais. On a au départ une opposition entre un Japon ou plutôt un Tokyo très morne, très gris, avec la ville fictive de Ruanapura, qui elle est très ensoleillée et qui est un repère de hors-la-loi, mais aussi représentative d'une immense liberté. Une liberté qui est omniprésente dans l'animé, avec cette équipe de mercenaires qui font des petits boulots pour gagner leur vie, qui sont libres de se déplacer, avec la voiture notamment, mais aussi et surtout en bateau. Et autour du bateau, cette plage, la mer à perte de vue, un sentiment de liberté qui est omniprésent. Cette ambiance plage, elle est presque entièrement effacée dans une partie de la saison 2, mais en contrepartie, on a une ambiance Yakuza de Tokyo qui est très réussie elle aussi, et il y a un grand développement de certains personnages et de leurs relations en contrepartie.
Oui, je suis d'accord avec toi sur la gestion de l'ambiance, et je rajouterais qu'elle participe grandement à raconter l'équilibre fragile de Ruanapura, et d'autres thématiques sont abordées comme la transgression et la fascination pour le crime de façon générale. Il y a beaucoup de références à la culture populaire dans Black Lagoon, et de par les répliques, les noms et les situations. Cela peut cibler des auteurs comme Heidegger ou Sartre, des animés, mais aussi et surtout des références géopolitiques relativement pointues quand on retrace notamment les parcours des différents protagonistes. On y parle entre autres de la première guerre d'Afghanistan, celle menée par les soviétiques bien avant celle qu'on connaît plus en Occident, c'est-à-dire celle menée par les États-Unis. On parle de la guerre du Vietnam ou notamment des liens entre les FARC et les narcotrafiquants.
Pour revenir aux références culturelles, si quelqu'un a une explication sur la référence qui est faite à une plage nudiste et qui est dit nudisto beach, donc ce qui en ferait une référence commune avec Kill la Kill, ou alors que Kill la Kill ferait une référence à Black Lagoon, eh ben on veut bien l'explication. Peut-être que c'est simplement quelque chose de culturel au Japon qui fait qu'on ne saisit pas la possibilité ou l'envie de faire du naturisme, mais peut-être qu'il y a une référence cachée à quelque chose, donc si vous l'avez, on veut bien savoir. Je voudrais maintenant en venir à une partie un petit peu plus technique, et en commençant par le visuel. Il y a de la CGI dans Black Lagoon, qui pourtant date de 2006, et justement, j'ai trouvé que les quelques plans, les quelques scènes qui utilisaient ou étaient réalisées entièrement en CGI étaient bien faites, bien intégrées, et que c'était bien dosé, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop, c'est pas omniprésent, mais dans les plans où ça se justifie, c'est utilisé et utilisé à bon escient. Et donc ça, c'est plutôt cool.
Oui, c'est la société Orange qui a réalisé les CGI pour Black Lagoon, société Orange qui plus tard sera connue pour les séries Beastars et L'ère des cristaux, qui sont reconnues pour aussi leur qualité des CGI. Il faut reconnaître effectivement la grande qualité d'intégration, comme tu l'as souligné, Jean. On peut souligner que cette série a 14 ans et intègre mieux ses CGI que certaines séries qui sortent encore aujourd'hui en 2020.
Concernant la musique maintenant, il y a quelques pistes dans l'OST qui viennent parfaitement épouser l'ambiance dans Black Lagoon. Alors je pense notamment à l'opening, dans une certaine mesure, à la piste qui s'intitule Tears Drop to Earth, qui est une sorte de thème pour le Black Lagoon assez calme, assez mélancolique. Évidemment à El Sol Se Requesta, qui est une musique qui est intimement liée à Roberta. Et la chanson qui s'intitule The World of Midnight, qui elle est plus intimement liée aux deux jumeaux. En dehors de ça, cela étant, il y a quand même... les pistes sont très oubliables pour la majorité de ce qui reste dans l'OST. Et à présent, j'aimerais que nous parlions doublage. Et vous allez constater que, comme d'habitude, je vais faire office de Captain VO et mon camarade Xavier de Captain VF. Alors, concernant les personnages, pour Dutch, je trouve que la voix japonaise colle au personnage, mais pour moi, la voix française est un peu trop éloignée d'une caricature, certes, mais du personnage du Black Baraké. Donc, c'est un no-go pour moi, en ce qui me concerne Dutch. Pour Roku, je trouve la voix japonaise, je l'admets, un petit peu monocorde face à la voix française, qui a un petit peu plus de punch. Mais l'aspect blasé du personnage y est aussi moins réussi qu'en version originale. Du coup, en somme, les deux sont corrects. Et surtout, le plus important pour moi, c'est Revi, qui est donc la comédienne qui lui prête sa voix en japonais, est absolument parfaite. Et je trouve qu'en français, elle perd beaucoup de charisme, même si la prestation de la comédienne est intéressante. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème de casting plus que d'interprétation.
Captain VO a encore fait des siennes. En tant que Captain VF, je me dois d'intervenir. Bon, moi je l'aime bien la VF. D'ailleurs, j'ai plutôt regardé en priorité en VF, notamment pour le casting d'ensemble que je trouve cohérent. Je vais reprendre un peu ce que tu disais, notamment sur Dutch. Sur Dutch, je trouve que la voix, justement, elle fait pas cliché, mais elle est imposante. Du coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt crédible, un côté taciturne que je trouvais moins présent sur la VO. La VO en faisait un petit peu des caisses sur le côté « j'ai une très grosse voix !» et ça me sortait un petit peu. Revi, en français, effectivement, elle a une gouaille, c'est un parti pris assez étonnant, mais qui me plaît beaucoup. Le fait d'avoir notamment une adaptation avec beaucoup plus de jurons, elle part clairement comme un charretier. La VO, j'ai un souci avec les moments où Revi parle en anglais, parce que c'est assez ridicule à ce moment-là et ça me sort un petit peu, ça me sort un petit peu de la série. Par rapport à Rock, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que la principale différence entre la VO et la VF, c'est vraiment le ton général qui est beaucoup plus où on va avoir beaucoup plus de métaphores, beaucoup plus d'images, beaucoup plus entre guillemets d'insultes et de piques entre les personnages. Peut-être des choses qui sont plus appuyées dans la VF que ce qu'on va retrouver dans les sous-titres de la VO.
Comment ? Captain VF a encore fait des siennes, mais je ne peux te laisser avoir le dernier mot. Captain VO ne s'est pas encore avoué vaincu.
Ce que je voudrais rajouter sur la VF, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait du sens qui se perdait. À une occasion, j'ai pu regarder certains passages en VF et revenir ensuite sur ces passages en version originale avec les sous-titres. Il s'agissait là des sous-titres de la version Netflix et non pas du coffret Blu-ray, pour précision. Et il y avait du sens qui se perdait. J'ai trouvé notamment... et là ça peut être considéré comme un petit spoiler sur le développement des personnages. Quand Rivi et Roku discutent dans la voiture à Tokyo, et Rivi parle de leur Ameripass, donc ce que je suppose être des visas ou des permis de séjour, qui vont expirer, et elle évoque l'idée de non-retour. Et en VF, elle dit simplement à Roku que quand on saute d'une falaise, on ne peut pas revenir en arrière. Et elle lui dit « Tu es chez toi et je comprendrai ». Et pour moi, il manque cet aspect on va bientôt ne plus pouvoir rentrer chez nous et tu dois prendre une décision.
Le samouraï et la soubrette. Le samouraï et la soubrette.
Ne sois pas si sûr de toi, Captain VO. Nous nous reverrons. Parlons un peu désormais de la représentation de la violence de Black Lagoon, vu que c'est un des arguments qui est souvent mis en avant lorsque on parle de cette série. Il y a une opposition entre deux types de violences distincts, si ce n'est complètement opposées. D'un côté, une violence froide, crue, cruelle, très réaliste en somme, et de l'autre, une violence beaucoup plus spectaculaire, fantasmée, exagérée, bien moins crédible, finalement très proche de ce qu'on peut voir à Hollywood, un peu ce que j'appelle la violence expandable. Black Lagoon s'en sort très bien pour représenter chacune de ces violences, que ce soit de façon plutôt comique ou de façon très froide. Par contre, je trouve que la violence spectaculaire y frôle parfois le ridicule, et selon moi, ça enlève de l'enjeu à certaines scènes qui sont censées être dramatiques.
Difficile d'en rajouter quand Xavier a déjà tout dit. Je voudrais simplement préciser que pour moi, le mélange entre ces deux violences était au final assez bien fait. Cela étant, il faut reconnaître que cette deuxième violence plus spectaculaire pourrait faire décrocher certains spectateurs. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais qu'on parle des personnages et des relations entre eux. Je vais commencer par ceux avec lesquels j'ai un petit problème, en commençant par Dutch, qui au final reste dans son archétype sérieux, on en apprend assez peu sur lui, et à l'inverse de Rivi, en tout cas pour moi, je n'ai pas spécialement eu envie d'en apprendre plus. Le personnage de Benny également, qui est lui aussi en retrait, sur lequel on sait assez peu de choses, et à part le fait qu'il vient de Floride et qu'il a fâché les services secrets des USA, il n'est pas vraiment développé, il nous dit même qu'il a été pendant 2 ans avec Dutch, et qu'il n'a pas appris grand chose sur lui. Balalaika, au final on développe assez peu son passé, on sait seulement que c'est une militaire issue du bloc soviétique, qu'elle a été en Afghanistan, et c'est à peu près tout. Elle est très extrême, elle est assez peu nuancée, à part éventuellement un petit peu en saison 2, et au final j'ai pas grand chose à dire sur ce personnage.
Oh, et bien moi ces personnages-là je les ai plutôt bien aimés, notamment Dutch. Le fait que ce soit un personnage qui n'évolue pas au cours de la série, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je trouve justement que c'est une sorte de pilier central pour Rebby et pour Rock. Quant au personnage de Balalaika, c'est un personnage aussi que j'aime bien, notamment parce qu'il représente très bien le fait que chacun peut devenir bon ou méchant selon les circonstances et le point de vue. En début de série, on voit Balalaika comme quelqu'un de... relativement sympathique et inoffensif. On se rend compte très rapidement que c'est très, mais alors très loin d'être le cas. Ça montre bien l'absence de manichéisme de la série et de tous ses personnages.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose sur deux autres personnages, ou plutôt sur un personnage et sa relation avec un second personnage. Il s'agit évidemment de Révi, qui est un personnage qui est assez classique entre guillemets pour ses origines, c'est-à-dire qu'elle est issue de quartiers pauvres et qu'elle a dû lutter pour sa survie. Et c'est quelque chose qu'on voit dans quand même pas mal d'animés. Cela étant, Révi est pour moi un personnage qui est réellement malade au sens premier du terme, dans le sens où c'est un personnage qui a un ressenti profond, un mal-être profond. Pour elle, seule compte les armes et l'argent. Du moins, c'est la façade qu'elle se construit. Car malgré ça, elle laisse transparaître des signes qui montrent qu'elle accorde de l'importance à l'équipage, y compris à Roku. Par exemple, avant de plonger, elle s'inquiète du fait qu'il ait fait tous ses réglages et elle lui dit qu'elle n'a pas envie d'avoir à se reprocher sa mort. Mais ça apparaît visiblement surtout comme étant un prétexte pour se justifier. Et du coup, sa relation avec Roku, qui semble au départ complètement inenvisageable, mais qui prend forme au fur et à mesure des épisodes, et qui devient très touchante et qui commence à se concrétiser plus tard, plus tôt dans la saison 2. Et c'est quelque chose qui revient dans beaucoup d'analyses ou de critiques de cet animé, c'est le développement du personnage de Révi, et c'est ce qui m'a le plus plu au niveau des personnages. Un petit regret, ce serait que certains personnages qui m'avaient l'air assez intéressants n'aient pas été plus développés, du moins avant les OAV de la saison 3, encore que leur développement reste quand même assez limité, et là je pense surtout à Chang et à Eda.
Puisque tu évoques la saison 3, je voulais signaler que si elle reste dans le même esprit que les saisons précédentes, elle est un petit peu moins subtile, avec notamment plus de gore et de la nudité vraiment gratos, ce qui est un peu dommage. On peut signaler aussi un changement de casting pour la VF, elle reste de bonne qualité, et d'ailleurs on y retrouve Caroline Combe, qu'on retrouvait déjà sur Assassination Classroom et sur Kill la Kill, qui fait d'elle donc le vrai fil conducteur de ce podcast. Les invitations sont lancées.
Il est temps maintenant de conclure. Et pour cette conclusion, je commence par dire que Black Lagoon, c'est cool. Et ensuite, Xavier, je vais te demander quel est ton personnage préféré dans cet animé.
Eh bien, ce sera Balalaika, parce que c'est un personnage mystérieux dont on a du mal à cerner les intentions. Et du coup, je le trouve très intéressant.
Et ben moi ce serait Révi, parce que Révi quoi, deux guns, des boobs, un mini short, son développement évidemment, pour être plus sérieux, et enfin, surtout, parce que Révi, elle veut commander des pizzas quand elle est sur un bateau en pleine mer, et ça, what else?
Très bien, c'est ainsi que se termine ce troisième épisode du podcast « Le Samouraï et la soubrette ». On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit de rester à l'écoute pour un prochain trailer.
J'ai une meilleure citation pour toi, Rock. Rappelle-toi de plomber au plus vite le type qui s'évertue à mettre 5 œufs dans 3 paniers différents.
Ça, c'est de la grande philosophie.